nous retrouvons notre émission L'Entretien Infini en compagnie de Robert Edecker. Bonjour Robert.
Bonjour, et ce générique que nous venons d'entendre, c'est la Vida Breve de Manuel de Falla. Et à la guitare, nous avons la merveilleuse instrumentiste arménienne Gohar Vardanyan. Et choisir ce générique dans les circonstances actuelles, c'est aussi une façon de soutenir les Arméniens dans l'épreuve qu'ils sont en train de traverser. Voilà, c'est un petit salut aux Arméniens. Mais nous garderons ce générique pour toutes les émissions, quelle que soit l'évolution historique. Donc, c'est une nouvelle émission et on peut s'interroger sur le nom qu'elle a, qu'elle porte, l'Entretien Infini. Il faut expliquer cette appellation, pourquoi ce nom. Alors, les gens qui aiment les livres et les bibliothèques savent que l'Entretien Infini est le titre d'un livre exceptionnel de Maurice Blanchot. C'est donc un hommage à Maurice Blanchot que nous faisons avec ce titre. Et l'Entretien Infini, c'est toujours ainsi que j'ai conçu, depuis mes premières lectures, que j'ai conçu la pensée comme un entretien qui ne se termine pas, qui ne peut pas se terminer avec les œuvres et les auteurs. Donc un entretien avec les auteurs par-delà leur mort, cela les maintient vivants, par-delà leur mort, c'est-à-dire dans les œuvres. Mais infini, cela signifie qu'il n'y a jamais de dernier mot, que l'entretien est toujours relancé. Alors vous pouvez me poser la question, oui, entretien, mais le mot de conversation ne serait-il pas plus adapté? J'ai hésité. Mais conversation, c'est finalement trop marqué, 18e siècle, et marqué mondanité. Et je trouve que le mot de conversation est un mot auquel il manque la dimension herméneutique, à laquelle je tiens. Alors, on va dire herméneutique, un mot un peu savant. Alors expliquons-le. Herméneutique, je veux dire par là, s'adresser à la chose, à l'œuvre, à la personne, sous une forme d'interrogation, de sollicitation qui fasse jaillir le sens ou lever le sens au fond dans l'interrogation de manière herméneutique, et il y a quelque chose du semeur, poser des questions, solliciter à la façon dont le semeur jette une graine et quelque chose va lever. Voilà, c'est pourquoi je préfère le mot entretien au mot conversation. Et alors par ailleurs, d'une façon un peu plus générale, en sortant de Blanchot, finalement c'est un entretien, ou ce sera un entretien, où nous avons l'ambition que ce soit un entretien avec les choses, comme si elles pouvaient nous répondre, mais oui, elles peuvent nous répondre à leur façon, avec le monde politique, mais aussi bien social ou cosmologique, c'est-à-dire métaphysique, et avec les êtres, c'est-à-dire quels sont les êtres, ce sont les hommes, les bêtes et les anges auxquels j'ai la faiblesse de croire, en l'existence desquels j'ai la faiblesse de croire. Voilà. Les hommes, les bêtes et les anges, donc les anges, peut-être, direz-vous, il se fait des illusions, mais même s'ils n'existent pas, les interroger est quand même très intéressant, essayer de deviner ce qu'ils pourraient nous répondre. Voilà, j'en ai fini avec une brève présentation de ce que voudrait être cette émission et avec la justification de son titre, un titre, ce n'est jamais quelque chose d'anodin. On ne le choisit pas au hasard, on le choisit parce qu'il porte un message et laisse transparaître la mission générale. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Ça ne vous étonnera pas, mais on ne peut pas faire autrement. De la pandémie du Covid et du sentiment que cette pandémie développe. Alors plutôt que sentiment, je préfère dire d'ailleurs, en employant ce mot dans son sens classique et pas actuel, passion, donc de la passion que cette pandémie développe, dont on se sert aussi, la peur. Ce sont les stoïciens, puis Spinoza, Descartes, qui appellent passion quelque chose comme la peur. Vous voyez, ce n'est donc pas le sens courant issu du romantisme, du mot passion. Donc, interrogeons notre temps. L'étrange et inoubliable moment que nous traversons. Moment inattendu. Faisons un peu, reportons-nous à un an, ou même au mois en arrière, ou même au mois de janvier, personne, même Madame Soleil, ne pouvait imaginer où nous en serions aujourd'hui. Donc nous vivons le moment Covid, et nous le vivons planétairement, et d'une façon inédite, une épidémie, pandémie, devient sous nos yeux, avec nous comme acteurs, un événement historique. Donc, je crois que la pandémie du Covid n'est pas seulement une pandémie. Regardons en effet, ouvrons les journaux, regardons les informations à la télévision, écoutons-les à la radio, questionnons les gens si l'on peut, dans la rue, difficile avec le masque, les conversations sont plus rares qu'il y a un an. Que constatons-nous ? Que ce n'est pas qu'une pandémie, que toutes les activités humaines s'en trouvent affectées, toutes, dans la totalité. C'est un phénomène total, comme si l'épidémie, au-delà des hommes, se propageait aux choses, aux institutions, aux objets, aux dispositifs technologiques de circulation des personnes, aux États. Donc ce n'est pas... Le virus semble attaquer aussi autre chose que les corps des êtres humains. Il semble... aller au-delà. C'est donc très différent des épidémies que l'on a pu connaître jusqu'ici, par le passé, et qui ont été beaucoup plus meurtrières. Les épidémies de peste, de choléra, songeons à la peste de Camus, les gens tombaient comme des mouches, à Villefranche de Lauragais, tout près d'ici, tout près du centre de Toulouse, il y a eu au milieu du 19e siècle une épidémie de choléra qui a tué la moitié de la population, 4500 habitants. Mais on voit bien que cette épidémie du Covid, c'est pas seulement ça. Donc il y a quelque chose qui explique la puissance de cette pandémie, qui est en fait un événement historique. Et quelle chose ? Je crois que c'est un ensemble de dispositifs qui n'existaient pas lors de dispositifs technologiques, techniques, politiques, qui n'existaient pas lors des épidémies précédentes que furent la peste, le choléra, la variole, par exemple cette peste d'Athènes, sur laquelle finit le poème de Lucrèce de la nature des choses. Donc, c'est l'articulation des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu et des États, des pouvoirs qui fait de cette pandémie quelque chose d'inédit. Et je dirais que c'est une pandémie digitale autant que biologique. Le mot virus, d'ailleurs, a les deux sens, virus informatique, digital et virus biologique. Oui, c'est une pandémie digitale, d'où sa puissance historique. De cette digitalité provient sa puissance historique d'événements planétaires qui bousculent les institutions, reconfigurent l'économie mondiale. Alors, il y a eu des périodes historiques que nous avons connues, vous et moi, d'allégresse, d'espoir, des périodes zélées, des périodes qui ont des ailes, qui semblent avoir des ailes, pendant lesquelles nous tenons l'avenir pour ouvert. Des périodes durant lesquelles nous nous plantons collectivement sur le seuil de l'ouvert, heureux, sur le seuil, nous gardons la porte ouverte. Espoir, joie de vivre, allégresse, ne sont pas par ailleurs forcément l'enfant d'une bonne situation économique, de la prospérité. Parce qu'on nous dit que la morosité actuelle est liée au mauvais climat économique. Qui vient se conjuguer, s'ajouter au Covid. Bon, je n'en suis pas sûr du tout.
Robert, on va peut-être marquer une pause musicale et puis on reviendra pour la suite.
Puis après, on parle de la peur.
Allez, on va partir avec Léo Ferré qui nous parle de Richard et vous allez nous expliquer après pourquoi.
Oui.
Nous avons une nuit comme ça, moi et moi, accoudés à ce bar devant la pierre allemande. Quand je nous y revois, des fois je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois. Richard, ça va ? Si les copains cassaient leur âme à temps pressé, le citron de la nuit dans les brumes pernaux, si les filles prenaient le temps de dire un mot à cette nuit qui les tenait, qui les berçait. Richard. À cette nuit, comme une sœur de charité, longue robe traînant sur leurs pas de bravade, caressant de l'ourlet les pâles camarades qui venaient pour parler de rien ou d'amitié. Richard. Ça va ? Nous avons une nuit comme ça, moi et moi, accoudés à ce bar devant la bière allemande. Quand je nous y revois, des fois je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois. Les gens.
Voilà, nous retrouvons notre émission L'entretien fini en compagnie de Robert Redeker.
Alors cette superbe chanson de Léo Ferré nous donne beaucoup de nostalgie parce qu'elle évoque quelque chose que nous avons perdu et que nous sommes en train de perdre, c'est les relations humaines à la faveur des bars, ce qui se joue d'humanité autour des verres en commun. Et c'est donc, ça nous incite à parler de la peur qui règne. Et c'est une peur, comme la pandémie est particulière, cette peur est particulière aussi. Elle est inédite dans sa forme, dans la mesure où elle se rend visible par le masque. Donc le masque cache quelque chose, le visage, et révèle autre chose qui, normalement, est invisible, une passion, hein, la peur. Donc le masque rend le visage invisible, et dans cette invisibilisation ressort quelque chose d'impalpable, d'immatériel, d'irrationnel aussi, cette passion, la peur, et cette peur, c'est une peur politique. C'est une peur de type politique. Alors d'abord, intéressons-nous à la question du visage. Pour ce faire, souvenons-nous de la pensée du philosophe Emmanuel Lévinas. Que voulait-il nous dire ? On est humain par le visage. Le visage est sans doute, si l'on continue le fil de la réflexion de Lévinas, le visage est sans doute ce qui nous différencie des animaux. Tant pis pour les antispécistes et autres réinventeurs du paganisme, et on sait tout le mal que Lévinas pensait du paganisme. Donc l'humanité, suivant Lévinas, c'est ceci, les visages s'apparaissent les uns les autres. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme, c'est un être d'apparition dont le visage est la modalité. Par le visage, l'homme et la femme, prenons l'homme au sens générique, donc par le visage, l'homme apparaît à l'autre homme. Et dans cette apparition de visage s'impose un rapport éthique. Nous avons un visage pour ne pas être des bêtes. Nous avons un visage pour ne pas nous conduire comme des bêtes, d'où l'humanité et l'éthique. Nous avons un visage pour entrer dans un processus de reconnaissance et vivre de plein pied dans l'éthique. Le visage, qu'est-ce que c'est ? C'est le lieu, à la fois corporel et spirituel, j'insiste sur spirituel, de la reconnaissance mutuelle. Spirituel parce que le visage, comme le Covid d'ailleurs, n'est pas que biologique. Alors, je cite à nouveau Lévinas, un extrait de son livre « Éthique et infini », qui est un livre facile à lire, donc que l'on peut recommander à tout le monde. Alors dans Éthique et Infini, on lit cette formule « autrui et visage ». Et que se passe-t-il quand autrui est masqué ? Et encore, l'accès au visage est d'emblée éthique. Or voilà que nous entrons dans cette période dont nous parlions tout à l'heure, une époque sans accès au visage. C'est-à-dire une époque dans laquelle, d'où la chanson, d'où le choix de la chanson de Léo Ferré, c'est-à-dire une époque dans laquelle le rapport à l'autre ne passe pas par cet accès au visage, cette obligation de porter un masque, de dissimuler son visage, et quelles que soient ses excellentes justifications, qui sont sans doute tout à fait fondées médicalement, cette obligation déshumanise. Elle empêche la reconnaissance réciproque. Elle empêche le rapport éthique réciproque. Alors, d'un côté, l'on nous dit, et l'on a sans doute raison, c'est une question de solidarité, de porter le masque. Donc c'est une question éthique, mais en même temps, ce masque cache le fondement de l'éthique, la reconnaissance mutuelle par le visage. Donc, cette obligation de porter le masque change les êtres humains à l'abstraction, à l'idée. Je vous rencontre, je vous vois, mais comme vous n'avez plus de visage, vous n'êtes plus que des idées. L'idée de Joël. Voilà, je ne vois pas Joël. Joël est une idée pour moi parce qu'elle a le masque, n'est-ce pas, Joël, qui est à la technique. Donc, cette obligation est au sens premier idéaliste. Le masque est idéaliste. Alors, nous avons affaire à une peur de nature politique. on peut le comprendre après ces réflexions sur le visage. Pas au sens où l'on peut dire que parfois certains pouvoirs agitent des peurs pour souder la population autour d'eux, non. Ou bien au sens où des dictatures se maintiennent par la peur de la violence qu'elles exercent sur la population. Par exemple, l'épouvantable dictature du général Franco en Espagne, naguère. C'est même exactement le contraire. Dans le cas de la dictature, la peur, au fond, unit la population contre la dictature, parce qu'il ne s'agit que de la peur de la police ou des services sociaux, spéciaux. Nous sommes unis parce que la police politique nous menace. Alors la peur, dans cette crise sanitaire, au lieu d'unir, fait le contraire, elle dissocie. Le père de l'État moderne est un grand philosophe anglais du XVIIe siècle, auteur du Léviathan, Thomas Hobbes. Ce fut le philosophe de la peur. Pour lui, la peur est première, elle caractérise l'état de nature, la condition humaine avant l'apparition de la société, de l'état policier. Et c'est pour échapper à la peur que les hommes fondent l'état et acceptent de se soumettre à ses lois. C'est pour échapper à la peur que des dangers que chaque homme représente pour chaque homme. Donc c'est pour échapper à la nature, où règne la peur réciproque, que nous nous unissons en société. La peur est donc fondatrice et éliminée. Alors, autrement dit, l'élimination de la peur qui lie les hommes les uns aux autres, qui fait solidarité, l'élimination de la peur que nous avons les uns des autres, c'est la matrice du lien politique. La société, c'est la neutralisation de la peur. Or, à quoi assistons-nous aujourd'hui? Il ne peut y avoir de société que si les hommes n'ont plus peur les uns des autres. Et cela, la pensée de Hobbes. La peur est le contraire de l'état de civilisation. Du coup, elle est l'affect qui menace cet état de civilisation de dissolution. Historiquement, la peur a pu prendre des visages différents. La peur interne aux sociétés a été la peur de ce qui est extérieur à la société, la peur de l'étranger quand il est là, la peur du barbare quand il est là, la peur du différent. Et ce type de peur, pour condamnable qu'il soit, unit. Mais nous voyons autre chose. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est une peur inédite. La crise du Covid, le fait d'être obligé de porter le masque déshumanisant installe la peur du prochain. Non plus au fondement, pour être éliminé, comme chez Hobbes, mais au cœur de la société. Voilà. Cette peur s'instille de manière capillaire entre chacun et chacun, entre moi et mon voisin, entre moi et ma famille. Ma famille, la peur à l'intérieur des familles. Mon frère, mon père, mon voisin, peut-être m'apporte-t-il la maladie, peut-être m'apporte-t-il la mort. Et donc c'est mon prochain qui redevient mon ennemi. C'est mon prochain qui peut m'apporter la mort s'il ne respecte pas les gestes barrières. Voilà. Alors, à ce type-là de peur, tout à fait inédite, donc cette peur qui par capillarité, sépare les hommes les uns des autres, au lieu d'unir, il faut donner un nom et on doit lui donner le nom, que l'on m'excuse pour ce néologisme, de peur moléculaire. C'est-à-dire la peur moléculaire entre les molécules de la société. Voilà. Un psychiatre comme Félix Guattari avait parlé dans les années 70 de révolution moléculaire. C'est-à-dire qui partait de la base. Voilà. La peur moléculaire, c'est la peur vraiment à la base. Et donc, au contraire d'une révolution, donc les deux sont politiques, au contraire d'une révolution, elle ne reconfigure pas le tissu social, elle ne le conserve pas non plus, mais elle le dissout insidieusement, jour après jour, comme les vagues rongent le littoral. La peur qui s'installe entre moi et toi, entre moi et vous, entre chacun et chacun, détruit le lien politique. Alors, on peut conclure, le masque, sur tout ce que nous avons dit, le masque déshumanise en défaisant le visage, la peur moléculaire que le masque exhibe désocialise et dépolitise, elle ramène à un état antérieur à la naissance du corps politique. Lévinas a dit quelque chose de très beau. Le visage me demande et il m'ordonne. Avec le masque, l'obligation de porter le masque, et par la peur qu'instille de façon moléculaire, c'est impossible. Voilà. C'était l'entretien infini, présenté par Robert Redeker, avec à la technique Joël, que je remercie beaucoup. Et à la semaine prochaine, même station, même horaire, même fréquence. Au revoir.